De Boulevard 102, en espérant que vous ayez passé une belle journée. Les 60 prochaines minutes vont être explosives ce soir puisque je reçois une invitée qui a fait longtemps de la télé, a eu une super de belle carrière, d'ailleurs sa carrière qui se continue toujours, mais elle fait partie, pour la plupart, les gens de ma génération, de nos premiers coups de foudre à la télé, on va se le dire. Anne Bisson qui est là avec nous, qui est, je ne sais pas comment vous présenter parce que vous avez une longue feuille de route, on peut dire animatrice, on peut dire chanteuse, on peut dire, est-ce que vous faites du jazz aussi, si je ne me trompe pas?
Oui, pianiste. J'ai deux bacs en musique, fait qu'on peut dire que je suis musicienne.
Bachelière en musique.
Bonjour. Ouais. Oui, oui.
Vous avez de multiples talents.
Ben oui, et je vous dirais qu'à quelque part, parfois ça m'a, je dirais peut-être pas le mot nuire, mais oui, parce qu'à un moment donné, il faut être l'homme d'une idée. C'est ce qu'on me disait quand j'étais au secondaire, parce que moi j'ai commencé à faire de la musique à l'âge de 5-6 ans, j'ai commencé à jouer du piano, ensuite j'allais au secondaire, pensionnaire, parce que j'étais tellement tannante qu'à un moment donné, je passais plus de temps en dehors de l'école qu'en dedans. Fait que mes parents ont dit, ben on va l'envoyer pensionnaire, comme ça elle va coucher dans l'école. Et puis, heureusement pour moi, c'était une école de musique. Donc, j'ai pu continuer à faire de la musique. Et puis, c'est un petit peu ça qui m'a sauvée, mais j'aime tout. Tu sais, ouais. Quand tu en vous dites, je fais plein de choses, c'est vrai, je suis une personne curieuse. Et c'est probablement pour ça qu'après Starmania, que j'ai faite avec Marie-Carmen, Marie-Denise Pelletier, bon, Jean Leloup, ben j'ai auditionné pour faire cette émission-là, Coup de foudre. C'était supposé être un été. Juste un été. Ouais. Ben, j'ai dit, ben c'est correct, j'ai pas de job cet été, je vais le faire. J'avais jamais animé de ma vie, j'ai passé l'audition, puis je l'ai eu. Je faisais déjà beaucoup de pubs à la télé, des ouais. pubs de bien, toutes sortes d'affaires. Fait que, donc après ma tournée, j'avais fait une tournée au Moyen-Orient avec Chilliwack, un band de Vancouver. J'étais allée chanter en Égypte, en Israël, ouais. En tout cas, je voyage beaucoup encore aujourd'hui.
Ben oui.
Mais j'ai attrapé ça, puis ça a été une belle expérience. Après ça, j'ai fait Vosimolo. Après ça, j'ai fait une émission.
On va parler de tout ça. Vous avez eu une super de belle carrière qui se continue encore à ce jour. Vous êtes conférencière aussi, j'avais oublié de le dire, sur votre carte d'affaires. Vous revenez de l'Allemagne, là?
Oui.
Wow.
Je suis allée chanter là-bas. C'est-à-dire, c'est une exposition qui s'appelle le High End Munich Show qui regroupe des manufacturiers de systèmes de son haute fidélité. Okay. Et moi, depuis 15 ans déjà, j'ai 7 albums et mon album Blue Mind est un des, comment je dirais ça, un best-selling album dans ce marché-là. Okay. Un marché qui n'est pas très connu, on appelle ça des audiophiles. Ça a l'air d'une bébite, là, mais c'est du monde qui achète des systèmes de son à 50 000, 100 000 $ et ça leur prend de la musique de qualité pour jouer et ouais. ma musique est enregistrée de façon de grande qualité, il faut le dire. Donc, c'est de là que j'arrive. C'est pas la première fois que je fais le show de Munich. J'en ai fait à Taïwan, j'en ai fait à Hong Kong. J'ai été invitée à Milan au mois d'octobre. Puis oui, à travers ça aussi, je donne des conférences. Ouais. j'ai réussi à faire vraiment les deux, mais je suis... parce que la conférence, pour moi... C'est complémentaire à mon besoin de communiquer. Hein? Quand on est sur une scène et on fait du piano de jazz, je joue au festival de jazz, bon, des fois, ben, on ne peut pas vraiment parler avec les gens. C'est-à-dire, on parle un peu entre les chansons, mais ouais. c'est principalement de la musique, hein, n'est-ce pas? Mais là, il y a une quinzaine d'années, peut-être un peu plus, je rencontre Marcel Leboeuf, hein, que tu dois bien connaître. Puis Marcel, il me dit... Anne, tu devrais donner des conférences. Puis t'es comme, OK. Puis là, je dis, ouais, ben j'aimerais ça, mais de quoi je vais parler, tu sais? Ben, il dit, écoute, je connais une amie, elle a fait ça, puis tu devrais la rencontrer. Fait que de fil en aiguille, j'ai bâti cette conférence-là qui s'appelle l'ADN du bonheur. Je parle de la gestion du stress. Regarde, on n'en sortira pas, là. On vit tous avec ça. Les années 2020, ils sont partis un peu raides aussi, puis ouais. ça nous a mis au défi, je dirais. Donc, ces conférences-là, ça s'adresse à un peu tout le monde, mais je donne principalement des conférences en entreprise, ouais. des banques, toutes sortes de monde.
Anne Bisson, as-tu toujours eu le bonheur facile?
Non.
Non.
Ben d'ailleurs, quand je faisais coup de foudre, j'étais bien, bien malheureuse parce que j'avais pas de chum. Puis
Ah
j'étais
ouais.
dans une période de ma vie où j'avais fait un album en français, hein,
Ouais.
1993, dont on ne se souvient pas, puis qui n'avait pas vraiment marché. Puis j'étais découragée. Je me souviens, j'avais 30 ans, puis j'avais dit à une de mes amies, là, je veux pas de party de fête. Elle dit, comment ça? Ben oui, mais j'ai dit, j'ai 30 ans, puis j'ai pas d'enfant. Parce que pour moi, c'était vraiment important d'avoir des enfants. Puis là,
Ouais.
je me trouvais très vieille. Là, j'ai 62 ans, je me trouve très jeune. Mais à 30 ans, c'était comme, oh mon Dieu. Puis la télé, pour moi, c'est venu facilement. Tu sais, j'ai jamais voulu être animatrice. Qu'est-ce que vous voulez? Il y en a qui étudient pour être animateur, là, puis je les trouve très valeureux parce que c'est un métier qui est pas facile. Hein? On le
Ouais.
sait, on est dans un siège éjectable.
Ouais,
Hein?
mais coup de foudre, vous étiez dans une émission de dating, puis vous n'étiez pas capable de vous trouver un partenaire de vie. C'est pas, c'est cordonnier mal chaussé.
Cordonnier mal chaussé. C'est pas que j'avais quelques prétendants, là, mais
Ouais.
quand même, non, j'étais chercher quelqu'un, ben, quelqu'un de sérieux, quelqu'un qui voulait avoir des enfants d'abord, parce que
Ouais.
moi, c'était important pour moi. Et puis, après coup de foudre, j'ai fait Vas-y Mollo avec André Robitaille, que vous connaissez bien. Alors, à un moment donné, André, il jouait au TNM, il me dit, j'ai des billets pour toi, viens, bon, viens me voir, tout ça. Fait que j'ai dit, OK, je vais aller te voir. Je vais le voir avec une amie. Puis après le spectacle de coup de foudre au TNM, on monte dans la loge. Puis André est avec un comédien qui est dans sa loge qui s'appelle Stéphane Jacques. Donc, ben là, il y a eu un coup de foudre. Le lendemain, André me dit, ouais, le gars dans ma loge, il t'a trouvé pas mal de son goût. Fait que là, moi, j'étais un peu tannée des gars. Puis je dis, oh, encore un autre là, qui veut pas se brancher. Puis là, André s'est choqué. Tu sais, André, moi, je le connais depuis longtemps, mais puis là, il me dit, Anne, franchement, Anne Bisson. Là, il dit, moi, je suis allée à l'École nationale avec ce gars-là, je le connais. Blablabla. Puis tu sais, c'est un bon gars. Puis si tu veux, je vais lui donner ton numéro. Et c'est donc comme ça, Stéphane est le père de mes enfants. Aujourd'hui, malheureusement, ben, on n'est plus ensemble. On a passé 20 années ensemble. Puis on a eu deux beaux enfants. J'ai un garçon de 28 ans qui s'appelle Samuel. Et une fille qui s'appelle Éléonore, qui a 25 ans. Et donc, c'est ça, j'ai bâti quelque chose avec lui, puis on a eu des belles années, puis nos
Ouais.
enfants sont bien.
Mais voyez-vous, c'est drôle la conception qu'on peut avoir quand on est. Ben moi, maintenant, je suis rendu dans les médias et tout ça, mais je faisais pas le même travail que vous. Mais je me disais, bon, ça devait être facile pour eux autres de rencontrer, autant pour Monsieur Gionnet que pour vous. Veux pas, vous avez commencé un show qui débutait, qu'on connaissait pas, puis ça a levé ce show-là, incroyable. Les premiers coups de foudre, là, t'sais, c'est tout le monde écoutait ça, puis c'était extrêmement divertissant, puis jamais j'aurais pensé que vous étiez malheureuse dans ce temps-là, t'sais.
Oui, ben écoutez, sans aller dans les détails intimes, j'ai eu une relation, puis on en parle beaucoup ces temps-ci, mais j'ai eu une relation qui a duré 6 ans avant coup de foudre, puis au début de coup de foudre,
OK.
avec quelqu'un qui était vraiment pas bien, qui était une relation toxique, on va appeler ça comme ça.
Ouais.
Puis à un moment donné, il a vraiment fallu que j'appelle la police. Puis c'est drôle parce que c'était un ancien policier, fait que la police qui appelle pour la police, qui me harcelait carrément, puis en plein milieu de la nuit, qui est venu sonner à ma porte. J'ai su récemment qu'il était décédé, puis ça m'a fait un petit soulagement parce qu'on reste toujours avec la crainte que cette personne-là revienne dans notre entourage.
Ah
Puis
ouais.
mes parents avaient très peur parce qu'évidemment, il avait gardé son gun, comme il appelait ça, puis il n'avait pas le droit, il avait laissé la police, il a fait, en tout cas, tout ça. Mais donc, sans donner de détails, puis parce que j'en ai pas parlé, puis à l'époque, savez-vous, je ne savais même pas ce qui m'arrivait à moi. Aujourd'hui, on en parle beaucoup, mais là, je parle des années 80. On ne parlait pas de harcèlement, on ne parlait pas de violence conjugale, on ne parlait pas. Puis en fait, si on parlait de violence conjugale, ben c'était souvent, tu as un œil au beurre noir, mais il y a plus
Ben
tellement
oui.
de sortes de violences verbales. C'est un exemple, une fois, il m'avait dit, ben toi, tu vas toujours rester une petite animatrice, tu feras jamais une chanteuse. Bon, c'est plus très encourageant. Bon, aujourd'hui, ça va tellement bien, ma carrière, c'est formidable, mais
Ouais.
tu sais, c'est donc, puis c'est une maladie, je pense, mais en même temps, il y a des caractériels qu'on appelle, et je ne crois pas que c'est que ça se guérit. T'sais, on appelle ça les
Ouais.
pervers narcissiques. Bon.
Mais
Fait que donc, j'ai eu
aujourd'hui,
relation.
vous le dites, on est capable de mettre des mots en
Ouais.
2024 sur des choses qu'on n'était pas capable d'expliquer dans les années 80, 70. On disait, ben, c'est de la violence parce qu'il a donné un coup de poing. Mais maintenant, la violence psychologique, on sait que ça peut affecter pas mal plus des fois qu'un simple
Oui.
coup sur le visage. Puis ça peut rester jusqu'à la fin de vos jours. Comme vous dites, c'est un hasard. Vous avez jamais voulu travailler à la télévision. C'est arrivé comment cette opportunité-là?
Ben, en fait, quand j'étais plus jeune, je voulais faire des pubs à la télé. Je me pratiquais avec mes brosses à dents, puis je connaissais toutes les pubs par cœur. Puis, ben, c'est arrivé par la musique. Moi, j'ai commencé à faire de la télé à 19 ans. Mon premier show de télé s'appelait Beaux et Jeunes à Télé-Québec. Et je chantais, hein, mes compositions. Ensuite, j'ai gagné le concours du Morier à Radio-Canada, qui est un concours coast to coast. Il y avait une certaine Angèle Dubois avec moi qui a
Oui.
gagné. Il y avait Diane Tell l'année d'avant. Bon, mais là, moi, je suis pas connue parce que j'ai pas fait encore coup de foudre. Fait que personne sait que Anne Bisson a gagné le festival de Granby, concours du Morier à... Et Starmania, qui est quand même assez gros, mais on ne s'en souvient pas. Je faisais Cristal, c'est quand même un personnage important, donc avec Marie-Carmen, comme je disais tantôt, Marie-Denise. Puis, donc, je faisais plein, plein, plein de télé. Donc, j'étais membre de l'UDA, puis j'avais un agent, puis j'avais des belles photos. Donc, à un moment donné, quand c'est arrivé pour les breakdowns, qu'on dit dans le jargon, ma photo est tombée sur la pile et le producteur m'a téléphoné pour me demander d'auditionner pour ça, pour animer. C'est comme ça que c'est arrivé, mais j'avais déjà fait beaucoup de télé avant. J'ai fait de la télé avec Michel Drucker, j'ai fait tout le temps comme chanteuse parce que, comme je vous dis, j'ai les deux bacs en musique, je ne sais que faire de la musique, mais c'est ça. Donc, je l'ai appris. Je dirais que la première année, j'ai trouvé ça difficile parce que j'avais pas beaucoup de place. Yves, avec qui je m'entends très bien, on s'est revus quelques fois là, depuis, il prenait beaucoup de place. C'était l'animateur. Donc, moi, il fallait que je joue du coude, tu sais, puis il fallait que... Bon, puis je suis pas, même si je peux avoir l'air d'avoir du bagou, j'ai de la jasette, mais j'ai... Je ne suis pas une personnalité qui va être fonceuse à ce
Ouais.
point-là.
Vous
Je
n'êtes pas
prends ma
impôts.
place.
Vous vous imposez pas. Vous prenez votre place, mais
Non.
vous vous imposez pas. Okay.
Non, puis je mange pas la poque, comme on dit
Mais
ici. J'écoute
c'est
l'animateur.
particulier l'effet que ça a fait, coup de foudre, parce que moi, je voulais vous épouser. J'étais trop jeune, mais je voulais vous épouser.
Ouais.
J'étais. J'avais 15 ans, je me dis, bon, ben, je vais
C'est
l'épouser.
Non, c'est ça. Il y a quelques... Ben, c'est certain que la télévision, ça nous marque. Ça marque. L'imaginaire des gens, puis j'en veux, moi je fais une carrière à l'international là, depuis
Ben
15 ans, puis j'en veux pas à personne au
oui. Ben non.
Québec de ne pas le savoir. Mais j'ai des choses à vous annoncer là, dans l'entrevue qui devraient faire en sorte qu'on devrait me revoir faire de la musique ici plus souvent et tout
Ben
ça.
oui.
Mais je comprends. T'sais, quand les gens me disent, hein, vous êtes allé chanter à Hong Kong, vous êtes allé, oui, j'ai 7 albums, hein, vous avez 7 albums. Bon, comment ça se fait qu'on ne sait pas ça? Ben, en même temps, c'est sûr que je suis pas là souvent.
C'est ça.
Donc, ma carrière est plus à l'extérieur du Québec à cause de la musique aussi que je fais, là. C'est du jazz. Ça n'a rien à voir avec coup de foudre
Oui.
comme style de musique. C'est vraiment du Diana Krall, Norah Jones, enfin.
Mais vous n'êtes pas la seule. Steve Barakat a le même problème. Steve Barakat, on le connaît un peu au Québec, mais à l'international, Steve Barakat, c'est une superstar. Quand il va en Asie, il ne peut pas se promener seul dans les rues parce que les gens le reconnaissent partout. Tandis que à l'intérieur des murs du Vieux-Québec, ben, on le regarde. Ah, son visage me dit quelque chose. Mais il connaît une carrière à l'international qui est exceptionnelle, tout comme la vôtre.
Ouais. Ben, je pense que c'est ça. Il y a pas une carrière qui est pareille, puis il y a pas un chemin aussi qui est pareil. Tu sais, des fois, moi, comme je vous dis, j'ai fait un album en 93 en français qui était très bon. Il y avait justement Les Moulins de mon cœur que je viens juste de reprendre. Là, c'est sur iTunes présentement. Puis je l'ai fait en français et je l'ai fait en anglais aussi, The Windmills of Your Mind, parce que mon public est plus anglophone. Mais je mets tout le temps de chansons en français sur mes albums. Mais je peux pas toutes les faire en français, sinon je n'en vendrais pas. J'en vendrais pas. Donc, c'était un bel album à l'époque, en 93, mais il a un peu passé comme dans le milieu. Tu sais, il y a comme... Ah! Puis après ça, je me suis dit... Ben, je me suis mariée, en fait, en 95. Donc,
Ouais.
2 ans après... Samuel est arrivé un an après le mariage et ça occupe ça des enfants. Puis j'ai fait la marmaille en me disant, je vais retourner à la télé Mais j'ai toujours voulu faire de la musique. Fait que, tu sais, j'avais tout le temps ça dans ma tête, puis je me disais, ben non, j'aime la télé, mais j'ai fait le tour, puis j'ai pas eu de regrets. Une chose qui me manque parfois, c'est les équipes. Parce que moi, je travaille toute seule. OK, là, ben, toute seule. Façon de parler, quand je vais en tournée, parfois, je suis avec des musiciens. Mais la vie de famille, entre guillemets, des plateaux de télévision, j'ai connu ça beaucoup. Coup de foudre, la marmaille, vas-y mollo, 4 ans, intense avec André. Puis,
Ouais.
alors, c'est un peu. Il a fallu que je me réadapte à ça. Ben là, ça fait 20 ans que je fais plus de télé, là, ou presque. À part mes apparitions à l'émission en direct de l'univers. Mais donc, ça m'a. Ça, j'ai trouvé ça difficile.
Ouais.
Parce que travailler seul, c'est toi-même ta motivation, là. Moi, je peux me lever un matin, il fait beau, là. Je me dis, ah, tiens, je pourrais aller commencer mes pivoines, mes fleurs, puis tout ça, tu sais. Il y a tout le temps quelque chose à faire. Donc, ça prend beaucoup de discipline. Mais là où je me rattrape, ben, c'est quand je fais mes tournées. Puis là, en plus, j'ai la chance de travailler avec mon fils, Samuel, qui a un bac en piano jazz de McGill, mais qui est un pianiste fabuleux. On est allé jouer à Chicago l'année passée devant une salle comble de 610 personnes. Il jouait de la basse au début avec moi puis le trio. Puis à la fin du concert, je l'invite à s'asseoir au piano. Là, les gens pensent plutôt, il est-tu bassiste ou il est pianiste? Il joue bien de la basse, mais c'est vraiment un pianiste. Et là, il joue Nature Boy, un classique de jazz. Et là, tout le monde fait comme, wow, OK, you're good, but your son is very good. Les Américains me disaient ça. Puis là, ah, je suis bien fière. Fait que donc, c'était le fun parce que je suis en train de me réapproprier la scène.
Ouais.
Puis la scène québécoise, au contraire, je ne la délaisse pas du tout. Là, j'ai un projet là, avec Samuel, justement. Puis je suis avec un producteur connu. Pour l'instant, je n'aimerais pas son nom parce on est en train de démarcher le projet. Mais je suis appuyée avec des personnes de longue expérience du milieu pour, ouais, c'est ça, pour faire un show au Québec, mais qui va parler de mon histoire
Ben oui,
aussi.
ben c'est
Parce que
important,
comme je
mais.
suis conférencière, ben oui, je pense que j'ai des choses à dire. Puis à
Ouais.
l'âge où je suis rendue, pas vieille, mais j'ai vécu des choses, puis je pense qu'il y a certaines parties de ce que j'ai vécu qui seraient prêtes à
Ouais.
partager avec le public.
J'aime ça aborder cet aspect-là. Comment quelqu'un qui a travaillé pendant quelques années, bon, vous avez fait de la musique et tout ça, mais quand la télé est arrivée, la popularité est arrivée du jour au lendemain. Anne Bisson, le lundi, elle n'avait pas encore commencé ses émissions de télé, puis elle pouvait aller faire son épicerie. Là, coup de foudre a commencé. On vous voyait régulièrement à la télé. Vous étiez la fille extrêmement souriante, très positive, qui présentait une émission pour célibataire. Tout le monde écoutait ça. Vous avez géré ça comment? Est-ce que ça a été facile pour vous? Ben, vous êtes dit, oh, tabarouette, là, il y a une vague qui s'en vient. Là, je vais-tu être capable de gérer ça?
Oui, je l'ai bien géré, je pense.
Ouais.
Puis j'ai géré le après aussi, ce qui était moins évident. Non, le vedette arrière. Ben, c'est que j'avais commencé quand même. Ça faisait 5-6 ans là, que je faisais de la télé, en fait, un peu de la pub et tout ça. Mais c'est vrai qu'on ne me connaissait pas. On n'avait pas vraiment mis Anne Bisson égale coup de foudre.
Ouais.
Bon. Armania, c'est beau les comédies musicales, mais je dis toujours, c'est pas ça qui va te mettre sur la map. Je regrette, là, mais parce que c'est un ensemble de personnes. Donc, tu es là pour prendre l'expérience, mais tu n'es pas là pour devenir vedette. Il y a des fois où j'ai toujours aimé que les gens. Mais ils me le disent encore, ils me reconnaissent encore. Ben, tu me vois le visage, là, on est
Ben,
en Zoom,
vous avez pas changé
j'ai
beaucoup, là.
changé. Mais tu sais, c'est ça, j'ai changé, mais je me ressemble encore pas mal. Et les gens aussi reconnaissent ma voix souvent. Mais je vous dirais qu'après, là, puis j'ai eu mes enfants, là, j'ai trouvé ça plus difficile. Puis je me souviens, j'ai un ami qui s'appelle Pierre Verville, que tout le monde connaît. Là.
Ouais.
Pierre, il me dit, je venais d'accoucher, là, j'avais pris 50 livres. Puis il me dit, oh, avec Flash à TQS, il dit, on a la possibilité d'aller au Maroc. Ça te tente-tu d'embarquer? Il y a Kathleen qui va être là, Dan Bigra. Puis là, j'avais dit à Pierre, je dis, écoute, j'ai pris 50 livres, je viens d'accoucher, le bébé a 5 mois. Mais j'ai dit, ça me ferait du bien. Fait que j'étais partie là-bas avec eux autres. Puis quand je suis revenue, ben c'est ça, j'avais pas de show de télé, tout ça. Et ce que j'ai trouvé le plus difficile, c'est qu'on me disait, on vous voit plus. Mais tu sais, on dit ça tous les jours. C'est comme si toi, on me disait, Yannick, tu travailles plus, hein? Tu
Ouais.
travailles plus. Fait que là, à un moment donné, je disais, écoutez, J'existe encore. J'ai deux enfants. Je suis en train de faire un bac en chant classique parce que j'ai fait un bac à 40 ans. La fille, elle veut, tu sais, en chant classique à l'Université de Montréal. Puis là, j'ai dit oui, je prépare des choses en musique. Fait que ça, c'était plus difficile à, je dirais, à gérer, je vous dirais, de rester tout le temps dans le sourire, tu
Ouais.
sais, parce qu'à un moment donné, tu te dis, bien, écoutez, oui,
Mais c'est
je...
particulier la vision que les gens peuvent avoir. On a l'impression que ces gens-là croient qu'on se définit par notre emploi. Alors moi, ce qui me définit, c'est ma famille, c'est mes gars, c'est mes amis, c'est mon entourage. Mon emploi fait partie de ma vie, bien entendu, mais c'est sûr et certain que je m'expose un peu plus que celui qui va construire des maisons. T'sais. S'il se passe quelque chose avec mon emploi, je sais pas, moi, je perds mon emploi du jour au lendemain, c'est tous mes auditeurs qui savent que j'ai perdu mon emploi, tandis que si je travaille dans un resto comme serveur, si je
Oui, c'est
perds mon
ça.
emploi, ben c'est les gens du resto vont savoir que je travaille plus là, puis j'en entendrai pas parler à l'extérieur. Tandis que vous, à chaque fois que vous allez faire
Pas
votre
toujours.
épicerie, on vous voit plus à télé. C'est comme
Oui.
si on n'était rien. Ben voyons donc.
Oui. Oui. Fait que ça pourrait... Mais je pense que malgré tout ce que j'ai vécu, puis ça, je le dis de façon très humble, j'ai un bon fond de bonheur. C'est-à-dire que j'ai une bonne résilience en moi. Donc, je ne me laisse pas abattre. Mais attention, j'ai mes coups de blues, comme tout le monde. Des fois, je dis à mon chum, ouf, tu sais, on rame fort, tu sais, je travaille, ça, j'aimerais ça que ça marche un peu plus, j'aimerais
Ouais.
ça. Mais il y aura toujours, lui, il me dit toujours, tu sais, il y a des gens qui sont riches dans la vie, hein, mais il y en a qui sont encore plus riches. Puis il dit, tu vas toujours retrouver auront plus de succès, tu sais, c'est tout à fait normal. Puis quand je relativise, je me dis, ouais, c'est vrai, je suis chanceuse.
Ouais, puis vous avez une
Tu
belle carrière
sais, je
aujourd'hui, là. Vous menez plusieurs carrières, sur plusieurs fronts, tu sais,
Oui, puis je gagne ma vie, ça c'est très rare de ces temps-ci, en vendant des disques. Mais je vends des disques à 100 $ US. Je vends des bobines, parce que moi je fais du reel to reel, des bobines de tape là, qu'on avait dans les studios de télé. Je vends mon album là-dessus, mes albums, 500 $ par album, parce qu'il y a des gens maintenant qui achètent des Revox, des machines à bobines pour jouer de la musique. Mais c'est des crackpots, là, que j'appelle. Mais ces crackpots-là, ils achètent mes albums. Donc, c'est une histoire. C'est comme un conte de fées. Puis, je pourrais vous raconter comment ça se fait que je suis tombée dans cette marmite-là de l'audiophile. Parce que ça aussi, c'est un hasard. Mais je crois pas au hasard. Je
Non,
fais
moi
pas
non
ça.
plus. Moi non plus. Je pense
C'est
que
mon
vous avez,
destin.
peut-être, mais vous avez mis des choses en place qui ont fait en sorte qu'à un moment donné, il y a une porte qui s'est ouverte et vous avez pu rentrer dans cette porte-là.
Ben en fait, ce qui est arrivé, c'est que quand j'ai fini mon fameux bac en chant classique, on est en 2004, j'ai 43 ans. Je n'étais pas destinée à faire de la musique classique. J'étais trop vieille pour aller chanter l'opéra, là. J'avais eu une bonne note, comme on dit, mais je n'avais pas le coffre, l'étoffe d'une chanteuse d'opéra. À 110 livres, là, tu sais, 5 pieds 3, des fois, bon, tu sais, t'as une petite voix, mais solide. Mais bon, là, je dis, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Ben, il faut que j'écrive un album. Faut que je fasse autre chose. Il faut que j'avance dans mon projet à moi. Fait que j'ai écrit un album en anglais parce que moi, c'est ma langue. Mon père, j'ai grandi beaucoup aux États-Unis, puis tout ça, puis on parle anglais chez nous, puis tout ça. J'habitais des cantons de l'Est. Bon. Fait que j'ai écrit Blue Mind. Et les gens qui ont produit l'album, c'est des gens qui fabriquent des systèmes de son qui s'appellent Simaudio, Moon. Ils sont basés à Boucherville, mais je les ai vus à Munich en fin de semaine passée. Je les remercie d'ailleurs. Parce qu'eux autres, ce qu'ils ont fait, l'album a sorti, c'est Guy Saint-Onge, que tu connais peut-être, qui a réalisé.
Oui.
On a enregistré ça chez Guy. Paul Brochu au drum, celui qui joue en direct de l'univers, quand même le meilleur drummer de la planète, ou à peu près. Paul et Normand Guilbeault à contrebasse. L'album, un son exceptionnel. Bon, moi, ça reste là. Je me dis, waouh, c'est beau. Mais Simaudio Moon, on a acheté 3 000 copies CD qui ont fait faire à leurs frais et qui ont envoyé dans 25 pays, partout où ils distribuent eux autres, ils font des amplificateurs. Hein? Donc, Moon, que ça s'appelle. Donc, j'ai eu une promotion, mais de l'enfer, mais gratuitement. C'est-à-dire que ma musique servait de démo pour démontrer la qualité de leurs amplificateurs et les boîtes de son qui vont avec ça, ben c'est du monde d'Allemagne, c'est du monde de France, Focal, etc. Boum, je me suis retrouvée, mais là, je ne le savais pas. J'étais avec Fidelio, une compagnie canadienne, québécoise. Et là, à un moment donné, j'apprends que je suis distribuée par un Elusive Disc aux États-Unis, à Chicago. Ben, j'ai dit, je vais appeler, tu sais, je vais appeler pour voir comment ça va, puis tout ça. J'avais racheté mes bandes, parce qu'après cette époque-là de Simaudio, Fidelio faisait d'autres albums, puis moi, j'ai dit, je veux quelqu'un qui s'occupe de ma carrière, qu'est-ce que vous faites? Puis bon, il n'était plus là. Ben, on s'est laissé comme ça. J'appelle Elusive Desk, le grand patron s'appelle Bob Benz. Je l'appelle au téléphone, je me présente, puis là, il dit, waouh, il dit, ça fait un an que c'est sold out. Il dit, on a vendu toutes tes vinyles. Il dit, on n'a plus. Fait que là, j'ai dit, OK, bon, je vais apprendre à faire des vinyles. Ça, c'était en 2008-2009. OK, ça fait là, quand même 15 ans, là.
Ouais.
Là, ça, je fais des bobines. On est là, peut-être dans 10 ans. Mais en tout cas, tout ça pour dire que c'est un conte de fées. Parce que ce qui est arrivé, c'est que ma musique s'est mise à voyager. Lui, Bob, il distribuait à Hong Kong. Je vais vous donner une anecdote assez particulière. Je suis à Dubaï avec mon conjoint dans un meeting. Focal. Focal, c'est une grosse compagnie qui font des boîtes de son, sont basées en France, mais le meeting avait lieu à Dubaï, dans la tour, la Burj Khalifa, tout ça. Fait que j'y vais avec mon conjoint, qui est distributeur à l'époque, qui était distributeur Focal. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Puis, je suis assise avec tous des hommes. Il y a des Chinois, il y a des Allemands, toutes sortes de monde. Puis moi, je suis. Il pense que je suis la blonde, tu sais, de Daniel Jacques. Parce que c'est un Jacques aussi. En passant, je suis passée de Madame Jacques à Madame Jacques, en tout cas. Et donc,
C'était pas son frère.
non. Et donc, c'est spécial. Il y a un Taïwanais qui est devant moi, puis il me regarde, puis il dit, You, what do you do? Tu sais, en voulant dire, c'est, tu laves juste la petite blonde de. Fait que je le regarde, puis je dis, Moi, je chante. Fait qu'il me dit, Ah oui, tu chantes, qu'est-ce que tu chantes? Fait que j'y pars, puis je fais September in Montreal, the night is dark and soft. Là, il fait, Oh, Bisson, September in Montreal. Là, il est complètement starstruck, il réalise qu'il est devant Anne Bisson, mais moi, je suis à Dubaï, devant tous ces gens-là que je connais pas, mais eux autres, ils me connaissent. Fait que j'ai dit à mon conjoint, j'ai dit, J'ai mon voyage, puis. 3 ans, 2 ans plus tard, on est allé chanter à Taïwan. Je suis allée avec Samuel, justement, mon fils. On a fait Hong Kong, on a fait Shanghai en Chine. Puis on a terminé avec Taïwan.
Ouais.
Puis il était là,
Est-ce
l'homme.
que c'était des grosses salles?
300 personnes. 300, 300, 400. Même Samuel a signé des autographes. Parce que là-bas, en Asie, c'est bien particulier. Les gens, quand ils t'aiment, là, c'est fou. C'est pas comme ici, hein? C'est une autre mentalité. Ils sont
C'est
très dédiés.
fanatique? Est-ce que c'est fanatique là-bas un peu
Un
plus?
peu,
Ouais.
mais ça reste toujours dans le respect. Je me suis, tu sais, jamais senti poussée, menacée, quoi que ce soit. Puis quand j'allais à Shanghai, ben, j'allais voir Jean-François Lépine puis Mireille Desglin parce que je les connais bien. J'ai fait des shows en banlieue aussi de Shanghai dans des gros, gros centres d'achat, des hubs. Mon Dieu Seigneur. Mais tu sais, mais j'aurais jamais pensé que Blue Mind, le premier album qui est rendu à 45 000 copies, là, je pense, vendu, qui prépare le terrain pour tout ce marché-là audiophile que je connaissais pas vraiment. J'étais une audiophile, par exemple. Attention. Quand j'ai acheté mon premier char, ma première voiture, c'était une Honda. Et j'ai choisi la couleur. Je dis au gars, je vais la prendre rouge. Mais j'ai dit, par exemple, il faut que je vérifie quelque chose. Là, je sors moi un CD. Il me regarde, il ne comprend pas trop ce que je fais. J'embarque dans l'auto, j'ai dit, il faut que j'entende le système de son. Parce que moi, si le système n'est pas bon, je ne l'achète pas, votre auto. Fait que c'est pour vous dire comment j'étais déjà, moi, dans ce mindset-là de dire, il faut que ça sonne bien, c'est
Ouais.
important ce que j'ai fait en studio. Et c'est pas. Ça, je vais peut-être vous apprendre quelque chose, mais c'est pas la plupart des artistes ne s'en inquiètent pas du tout de ça. Ils vont chanter, s'en vont en studio, ils enregistrent, ils sont super contents, mais ils traversent pas de l'autre bord, jamais. Ils vont pas écouter les moniteurs avec l'ingénieur. Eux autres qui ont fait leur affaire, puis après ça, le mix, puis allez-vous, tu sais. Moi, non. C'est exactement le contraire. Puis j'ai même travaillé dans des gros studios à Los Angeles. J'ai fait 2 albums à Los Angeles. Puis écoute, le gars, il a des Grammys, il a travaillé avec Diana Krall, tout ça, mais j'étais picky quand même. Je disais, Michael, j'entends pas le petite fin de phrase. Tu sais, où je veux ça plus fort, les backups. Je m'implique énormément dans mon produit parce que moi, si ça sonne pas bien, ben là, je viens de me tirer dans le pied
On le
puis j'en
pense
vends.
pas. Ah, j'aime ça. J'aime ça.
C'est spécial, hein, comme marché.
Mais vous êtes une perfectionniste, là. C'est juste que, tu sais, faut quand même oser, tu sais. Vous dites, je travaillais avec des gens qui réalisaient des albums avec des artistes internationaux. Vous vous considérez comme un artiste international aussi, avec raison. Mais de jaser avec ces gars-là, vous dites, OK, oui, tu me dis que c'est correct, mais moi, j'entends pas ma fin de phrase. Ben, je trouve ça exceptionnel parce qu'il y a, très, il y a beaucoup de gens qui diraient, je sais pas si c'est l'effet de toge, là, mais il y a beaucoup de gens qui diraient, ah ben lui, il a travaillé avec les plus grands, fait qu'il doit savoir quoi faire. Puis j'imagine que c'est le réflexe des artistes qui font à peu près le même métier que vous, ceux qui disent, ben moi, je suis bon quand je chante, donc pour le reste, je le suis pas, je vais lui faire confiance. Vous, vous faites confiance, mais vous voulez quand même garder un regard sur votre produit, et c'est tout à votre honneur, vous dites que ça fait le tour du monde maintenant, là.
Oui, ben je pense que c'est. Je l'ai appris quand j'ai vu le succès de Blue Mind. En fait, le deuxième album, il n'était pas aussi bon. Et puis, je me suis tout de suite, j'ai rectifié le tir. Je suis retombée à ma formule en trio. Parce que le deuxième album, que j'ai fait aussi avec Guy Saint-Onge, puis Guy, c'est quand même un super producteur, mais là, il y avait plein d'instruments, de la trompette. T'sais, on avait mis le paquet. Puis, c'était Universal Music qui était derrière moi à l'époque à Toronto. Puis il m'avait dit, le vice-président m'avait dit, il faut que tu fasses des standards parce que Diana Krall a fait ça, puis il faut que tu fasses ça. Fait que je l'avais écouté. Puis le deuxième, non, il ne s'est pas autant vendu, bien qu'il s'est quand même vendu plusieurs milliers de copies. Mais là, tout de suite, le troisième, j'ai fait, non, je retourne à ma version trio. J'ai rajouté un violoncelle de temps à autre. Mais pourquoi un trio? Parce que quand tu as une bonne chanson, tu peux la faire piano-voix. Elle va être bonne, OK? Mais en audiophile, plus on ajoute des instruments, plus on est obligé de compresser le son. On n'a pas le choix. Il y a trop de monde à la messe. C'était trop. Donc, la pureté, je ne sais pas si vous comprenez, mais la voix est moins présente et tout. Il y a trop d'instruments. Donc, j'ai rectifié. Puis là, ben, c'est ça. Je suis rendue à mon... Qu'est-ce que j'ai dit? Septième album. Oui. Puis, je garde la... Tu sais, quand une recette marche...
Mais la bonne nouvelle, c'est que c'est pas fini. Vous avez encore énormément de projets. Vous en avez qui s'en viennent pour le Québec. Je veux juste poser une question parce que c'est une question que je voulais vous poser ce matin. Je pensais à l'entrevue que j'allais avoir avec vous, puis je me suis dit, faut pas que j'aille l'air trop fafane d'Anne Bisson, de coup de foudre.
C'est correct, ça me fait plaisir.
Monsieur Gionnet, ça a-t-il été un choix personnel de ne plus jamais refaire de télé par la suite ou...
Honnêtement, je ne le sais pas. Je n'ai jamais demandé. Mais je pense que... Ouais, je pense qu'il n'y avait pas peut-être ce qu'il faut pour continuer une carrière. Peut-être que ce n'était pas important pour lui. Je ne sais pas. Il n'y a pas... c'est vrai qu'après, on ne l'a pas revu.
Ouais. Parce que lui aussi...
Il est camionneur.
Lui aussi, parce qu'on en parlait tout à l'heure. Vous dites, ben moi, à chaque jour, j'entendais parler d'Anne Bisson qui n'était plus à télé. Puis c'est comme si j'étais morte alors que j'étais encore en vie en train de faire mon épicerie. Tu sais. Lui aussi, ça devait être la même chose de son côté. Il se faisait régulièrement parler de cette émission-là. Moi, je ne sais pas s'il avait fait des choses avant, M. Gionnet.
Oui, mais... oui. Yves, il a fait de la radio à CKVL.
Il avait fait de la radio.
C'est là qu'il a pris son métier. Puis il était aussi, au début, il a été aussi chroniqueur. Pour la circulation en hélicoptère. Alors ça, je vous parle de ça, c'est les années début 80. Là.
Ouais, c'est
Yves,
vrai.
Il y a peut-être deux, je pense qu'il y a 3 ans de plus que moi. Fait qu'il doit avoir 65 ans. Donc, il y avait du métier, puis c'est un gars qui avait une belle personnalité et tout ouais. Ça. Fait que oui, effectivement, la vie a fait qu'on l'a plus revu. Mais nous, on s'est vu deux fois. On s'est vu, comment ça s'appelle, Julie Snyder, là, les petites valises, là, comment
ouais.
Ça s'appelle?
Le banquier.
Il avait fait un spécial années 80. Alors là, j'étais encore là pour parler de coup de foudre. Mais Julie avait été très cool. Elle m'avait dit, elle avait fait un post, mais elle avait grabé ma pochette. Puis elle avait dit, elle arrive d'Asie. Elle chante, là. Tu sais, là, j'ai dit, le coup de foudre, là, c'est, elle fait d'autres choses. Ouais. Mais ça avait été une belle rencontre.
Aviez-vous regardé est-ce que vous avez regardé les autres éditions de Coup de foudre qu'on avait tenté de refaire un peu pour imiter les premières versions? Moi, je vais être très honnête avec vous. La première version dont vous faisiez partie, Coup de foudre avec Yves Gionnet, je les ai toutes regardées. Mais quand on a essayé un genre de comeback plus tard, je n'étais pas capable. Là, c'était pas la même chose. Il n'y avait pas cette fraîcheur-là que vous aviez dans les années 80, vous et votre animateur. Ils n'ont jamais réussi à recréer recréer ce que vous aviez fait au départ, alors que vous étiez des newbies de la télé, là. Vous n'étiez pas des gens qui étaient habitués là, à faire ce type d'émission-là. Ils n'ont jamais été capables de reprendre ça. Est-ce que vous aviez regardé ça?
J'ai peut-être vu une fois Mathieu Baron, je pense. En tout cas, j'ai entendu parler que c'était lui qui l'avait fait. Moi, après l'année, quand ils nous ont remplacés, ils nous ont remplacés avec Christine Anthony, que j'adore, qui est très gentille. On se suit sur Facebook. Et un garçon qui s'appelait Éric de Gaspé. Puis là, ils ont tué le show, excusez. Puis c'était pas de leur faute à eux autres. On peut pas remplacer... Non, mais c'est vrai, ils auraient pu être les meilleurs au monde. On peut pas remplacer un couple qui a cette force-là à l'écran par un autre couple, ça marche pas.
Exact.
Puis même à un moment donné aussi, moi, je négociais avec TQS parce que, bon, les salaires, c'était pas toujours à mon goût. Bien, ils m'avaient dit, pas de problème, on va en prendre une autre. J'ai dit, ah ouais, vous allez en prendre une autre. Fait qu'Yves, il va avoir une autre... Pas sûr de ça, moi. Tu sais, j'avais un peu bluffé, là. Puis finalement, l'année suivante, ben c'est ça, ils nous remplacent pour donner un nouveau souffle à l'émission, mais boing. Mais moi, j'étais contente parce que j'avais Vasimolo.
Oui.
Je venais de faire mon... Puis c'était un méchant beau contrat. J'étais musicienne, chef. Je composais la musique. Tu sais, la synchro, les gens ne savent peut-être pas c'est quoi ce mot-là, mais quand on écrit de la musique à l'image, ça vaut la peine. C'est juste ça que je peux vous dire. Fait que donc, j'avais j'avais vraiment des belles conditions de travail. Puis pas juste une question de salaire. C'était une belle équipe. Les gens étaient... Tu sais, on avait 4 réalisateurs, un réalisateur coordonnateur... on faisait une journée et demie par semaine, on avait une réunion, puis on recevait des artistes, puis on réalisait leurs rêves. On a eu toute la brochette des grands artistes. On les a tous vus à Vasimolo qui venaient faire leurs rêves. Fait que c'était très éclaté. Là, je faisais de la musique. Fait que là, je me disais, ah, au moins, je suis dans mon élément.
Ouais.
Puis après 4 ans, ben, l'émission a été remplacée par Bulldog Bazar. Puis on est parti.
C'est ça, là. Puis quelques années plus tard, vous avez décidé de revenir à l'écran avec vos enfants. C'était ça, Canal Vie?
Oui, Canal Vie.
Ça s'appelait La Marmaille.
Oui. La Marmaille, oui. J'aimais pas tellement le titre, là, mais en tout cas, c'est Canal Vie qui avait décidé. Ce qui est arrivé, c'est que là, c'est ça, j'avais plus de télé, puis je me suis dit, au lieu de postuler pour être animatrice, j'avais un Samuel qui avait 2 ans, puis Éléonore, j'étais enceinte d'Éléonore la première année. C'est moi qui ai tout créé le concept, puis c'était génial. Hey, j'ai eu Luce Dufault avec Lunou quand elle était petit bébé. Ma fille s'appelle Éléonore parce que Éléonore Lagacé était sur le plateau avec Nathalie Choquette. Puis j'étais enceinte, puis je cherchais un nom pour ma fille, puis j'ai dit « Oh, Éléonore, c'est beau ce nom-là! » Puis Éléonore a l'âge de Samuel, Éléonore Lagacé. Hein? Donc, ma fille s'appelle Éléonore à cause d'Éléonore Lagacé. J'ai eu Xavier Dolan, il avait 10 ans, il était avec Manuel. Xavier, il ne disait pas un mot, il était super tranquille.
Mais,
super
Xavier Dolan, c'est le fils de Manuel Tadros, c'est ça?
Oui,
ah, oui. Okay.
Puis Manuel était venu parler du diabète parce qu'il était porte-parole de la Fondation des diabétiques, parce qu'il est lui-même diabétique. Et donc, le concept de mon émission, c'était un artiste avec ses enfants et 4 chroniqueurs. Un chroniqueur santé, on avait un médecin, on avait un pédopsychiatre, on avait une nutritionniste. On avait une équipe, puis quelqu'un à la consommation. T'sais, comment choisir la meilleure poussette? Comment, à quel âge, les meilleurs livres, les chroniques de... Bon, il y avait Ève Désiel, que les gens connaissent peut-être, qui est la conjointe de Michel Rivard depuis plusieurs années. Ève était recherchiste, puis c'est une femme extraordinaire qui a beaucoup d'expérience. Fait que, tu sais, j'avais une belle gang, puis après, j'ai accouché d'Éléonore. Mais là, c'était drôle, des fois, il passait des reprises, puis là, il me disait « Vous n'avez pas encore accouché? » Je dis « Oui, oui, là, ça fait... Le bébé est sorti! » Puis c'était drôle, parce qu'Éléonore, elle pesait 9 livres. C'était un gros, gros bébé.
Ouais.
Puis une fois, on l'avait amené à l'émission, puis la pédopsychiatre a dit « Bon, là, à 9 mois, l'enfant est supposé faire ça, ça, ça. » Ma fille, elle faisait tout le contraire. Fait que là, c'était juste drôle. Tu sais, c'était la vraie vie,
puis
quoi.
Puis dans ce concept d'émission-là, vous ne faisiez pas juste l'animer, je pense que c'est vous qui l'aviez mise en place.
Oui, c'est ça. Je l'avais créé, puis j'avais trouvé un producteur. C'était Communication, Claude Héroux. Et c'était Luc Harvey, qui était mon ancien boss à TQS, qui était le producteur, d'ailleurs. Il me disait tout le temps, « Oh, m'excuse, on n'aurait pas dû vous flusher à 4 saisons. » J'ai dit, « Luc, oublie ça, là. C'est du passé. Je me sentais coupable. » Non, non. Puis c'est drôle, parce que quand j'ai signé pour La Marmaille, Ben, je n'étais pas enceinte. Hein? J'avais Samuel, qui avait 2 ans et demi. Puis le concept, c'était que j'étais avec mon fils sur le plateau. Puis il y avait des enfants qui jouaient tout ça. Puis là, ben, je tombe enceinte. Bon. Fait que là, je dis à mon mari, à Stéphane, à l'époque, je dis, il va falloir que j'annonce ça au producteur. Fait que là, un jour, je me prépare. On est en train de faire le pilote. On commençait l'émission. Fait que là, je dis, Luc, il faut que je te dise quelque chose. Il dit, quoi? Ben, j'ai dit, je suis enceinte. Ben, il dit, tu diras félicitations à Stéphane. Ah oui, mais là, j'ai dit, ça dérange-tu? T'sais, à cette époque-là, là, on est 30 ans en arrière, là, quasiment. T'sais, être enceinte, là, à TV, il n'y avait pas, là. Ben, il dit, vas-tu être capable de faire toutes tes émissions? Ben, j'ai dit, je pense que oui. J'ai dit, bon, j'ai dit, je suis dormeuse un peu, vous me mettrez un lit dans ma loge, puis entre les émissions, j'irai me reposer. Puis, ben, il dit, c'est parfait pour l'émission. Il dit, c'est une émission pour les parents, sur les enfants. Fait qu'il dit, une femme enceinte. Puis, c'est pas pour me vanter, là, mais enceinte de Léonore, j'étais rayonnante, j'étais bien. Tu sais, je me sentais épanouie. Autant qu'à Samuel, j'avais trouvé ça dur, parce que je faisais plus de télé.
C'est
Puis,
ça.
j'étais bouboule. J'avais pris beaucoup de poids. Je mangeais pour deux, là, dans ce temps-là. Mais, tu sais, à Eleonore, c'était comme, wow, je suis retournée à la télé. Tu sais, j'ai fait toutes les émissions de variété. Les gens m'accrochaient dans la rue, tout ça. Fait que ça a été une belle expérience, mais malheureusement, c'est ça,
Canal
Canal
Vie.
Vie, il m'avait mis dans une drôle de case horaire. Il commençait, Canal Vie. Puis ça, c'est très difficile, Yannick, quand une chaîne de télévision commence. Pourquoi? Ils sont sénères, des codes d'écoute. C'est ça, ils sont très stressés par ça. Puis il m'avait mis, tu as eu des enfants, il m'avait mis le soir à 19 h. Mais là, j'ai dit, écoutez, 19 h, c'est les bains. J'ai dit, c'est une émission pour les parents, mais moi, à 7 h le soir, là, je ne suis pas devant TV, je suis dans la salle de bain.
Exact.
C'est le temps des bains. Après, vers 8 h 30, 9 h, mettez pas ça trop tard, parce que souvent, on dort, on s'endort avec les enfants, avec l'histoire, mais j'ai dit, vous ne me mettez pas dans la bonne case horaire. J'ai appris beaucoup de cette expérience-là. Aujourd'hui, si je refaisais une émission de télé, parce que j'ai toutes sortes d'idées, je me dis, tant que je suis en forme, pourquoi pas, j'aimerais avoir une émission de service qui combinerait la musique et mon volet conférence. Parce que dans mes conférences, je parle de la vraie vie. Je parle de ce qui se passe. Comment ça se fait que des fois, on n'est pas heureux? Comment ça se fait qu'on a de la difficulté à être dans le moment présent? Puis je donne plein d'outils pour se ramener à ça. C'est sûr que là, on vit dans un monde où la technologie nous a complètement absorbés, je dirais. Puis c'est difficile de s'en couper. Hein? On va en parler, là, les téléphones, les tablettes.
Ouais.
Je suis heureuse de ne pas avoir des enfants à élever, moi, aujourd'hui, à l'heure qu'on se parle, parce que je ne sais pas comment les parents font.
Ah, c'est pas compliqué, nous on l'interdit la semaine.
Ben, tu sais, non, mais oui, mais à un moment donné, ils grandissent, là, ils ont
Oui.
14 ans, 15 ans, là, on ne peut plus. En tout cas,
On
mais j'aimerais ça qu'on.
gérera ça une fois rendu là. Au pire, lorsqu'ils auront 14-15 ans, on coupera le Wi-Fi, puis on leur dira, ben, si tu veux le Wi-Fi, c'est toi qui vas le payer. Fait que,
C'est toi qui vas le payer, c'est ça.
mais pour l'instant, nous autres, on est vraiment la semaine, il n'y a pas de téléphone, il n'y a pas d'iPad, il n'y a pas de jeux vidéo. Puis la fin de semaine, l'hiver, c'est correct, mais l'été, il n'y en a pas pendant le jour de jeux vidéo. On s'en va dehors, on s'amuse, on va voir les amis.
Bien.
Mais moi, ce que je constate de votre carrière, c'est que vous avez toujours fait face aux étapes qui étaient présentées devant vous. T'sais, vous disiez tout à l'heure, ah ben dans mes émissions de télé au départ, je suis pas quelqu'un qui s'imposait, mais je prenais ma place. Moi, ce que je vois, c'est une ambition qui voit des opportunités, qui a pas peur de rien, qui y va, qui rentre, puis qui est capable après quelques années de se dire, ok, ben moi je veux faire mon concept d'émission qui s'est appelé La Marmaille. De ce que je comprends, c'est pas vous qui avez choisi le titre de l'émission, mais vous avez travaillé là-dessus puis vous l'avez conceptualisé. T'sais.
Oui.
C'est vous avez toujours osé. Puis je pense que ça fait partie de votre personnalité. Puis je pense que les gens aujourd'hui, ils osent pas assez.
Peut-être qu'ils ont peur. Ça dépend aussi beaucoup de l'éducation. Moi, j'ai eu
Ouais.
la chance d'avoir des parents qui m'ont dit, tu peux tout faire. Si c'est ça que tu veux faire. D'ailleurs, quand je me suis en allée en musique, mon père est ingénieur d'informatique. Ben, j'avais peur d'y annoncer ça, là, j'étais en auto, puis on est en 1978, puis il faut que je dise que je m'en vais en musique. Il va dire, ça marche pas. Il a répondu, parce qu'il a dit, papa, j'ai décidé de m'en aller en Belgique. J'étais pensionnaire, hein, comme je vous l'ai dit tantôt. Fait que j'avais 2 heures pour parler avec mon père. J'étais tout seul avec lui dans l'auto. Ben, il dit, c'est correct. Mais j'ai dit, tu sais, ça t'inquiète pas. Ouais, il dit, c'est sûr. Il dit, 80% des musiciens, ils n'ont pas d'ouvrage. Il dit, c'est les statistiques, man. Mais toi, si tu veux vraiment faire ça, va jusqu'au bout, par exemple. Puis c'est cette phrase-là qui m'est restée en tête même aujourd'hui, et c'est ce que je dis à mes enfants, parce que quand tu veux vraiment quelque chose, il faut que tu sois persévérant. Puis des fois, ton chemin, tu penses qu'il va s'en aller directement comme ça, tout droit, mais il va avoir des bifurcations. Par exemple, moi, les conférences, ben, toute la télé que j'ai fait dans ma vie ou les expériences m'aident à donner des conférences, c'est évident parce que, puis il arrive plein d'imprévus, puis des fois, il est supposé arriver ici, puis arriver ça, puis ça marche pas, puis... Donc, ça m'a préparé à ça. Mais je pense que mon éducation, puis ça, je le dis souvent aux parents, n'ayez pas peur de dire à vos enfants qu'ils sont capables. Et surtout, surtout, dites pas devant eux autres, aïe, il est gêné, lui. Aïe, lui, il est comme ça, lui, comme ça. Mettez pas d'étiquette. J'en entends souvent, puis je ne veux pas les juger, là, parce qu'ils ne font pas méchamment. Mais ça leur reste. Ça reste dans leur ADN, si on veut. T'sais. Donc, je pense que j'ai cette chance-là d'avoir eu, c'est ça, des parents qui m'ont dit, t'es capable, tu veux faire ça? Vas-y, tu sais. Puis, ma fille a décroché de l'école, elle, pendant 3 ans. Ça a été dur pour la maman qui aime aller à l'école puis qui a 2 bacs en musique, puis elle avait un secondaire 5. Oh là là! Hey, je dis, Léonore, tu vas faire quoi, là? Tu sais, c'est le fun de travailler chez Sport Expert, mais tu vas trouver ça long, là, à un moment donné. Puis, il a fallu qu'elle-même, évidemment, se reprenne en main. Puis là, elle a un parcours exceptionnel, puis je suis bien fière d'elle. Elle est retournée dans son élément, mais elle veut être notaire. Je sais pas d'où ça sort, mais elle adore ça. Son père est acteur, sa mère est chanteuse, mais elle dit, moi, je veux pas la pige, ça m'intéresse pas. J'ai dit, c'est correct, tu sais. Donc, l'important, c'est comme adulte aussi, mais comme les jeunes, c'est de réaliser leur plein potentiel là où c'est important pour eux. Le problème, je pense, actuellement, dans la génération dans laquelle on vit, et ça, j'en suis consciente, c'est qu'il y a des jeunes qui savent pas. À 17 ans, il faut qu'ils s'en aillent au cégep puis ils ne savent pas ce qu'ils veulent faire. Et ça, c'est très angoissant. Ça demande de l'introspection, puis ça demande aussi une certaine patience de dire, bon, ça se peut que je ne trouve pas tout de suite le chemin, mais il faut que je continue à avancer, puis on va le trouver. Puis aujourd'hui, on veut savoir tout, hein, quand, comment, pourquoi, puis à quelle heure, puis combien ça va payer. Mais ce n'est pas comme ça que la vie marche. La vie,
Êtes-vous quelqu'un de
oui.
résiliente? De résilient, c'est-à-dire? Êtes-vous quelqu'un de
Oh oui,
résilient?
mon Dieu, oui. Et oui, j'ai vécu des épreuves assez particulières qui font en sorte qu'aujourd'hui, oui, j'ai de la résilience.
Quand on
Oui.
est résilient, on traverse les tempêtes des fois un peu plus facilement, mais ça prend un bout. Puis comme vous le dites, t'sais, ça dépend des étapes qu'on vit dans notre vie. Puis moi, j'ai un de mes enfants qui a la résilience facile. Quand ça marche pas, il essaye d'autres choses. Puis j'en ai
Oui.
un autre que la résilience, pour lui, il y a de la misère, là. T'sais, s'il y a quelque chose qui marche pas, il va bugger, il va bugger, il va bugger. Mais à un moment donné, il faut penser à d'autres choses, là. Ça marche pas,
Ouais.
ça marche pas. On passe à d'autres choses, tout simplement. Faut pas revenir constamment avec ça, t'sais.
Mais ça aussi, c'est dans leur ADN puis dans leur personnalité. Moi, j'en ai deux, ils sont très différents, là, les deux, vraiment. Ils sont vraiment pas dans le même.
Je ne sais pas sur
Ah.
quel piton vous avez pesé, mais je vois des belles
Ah,
ballons chez
moi aussi, je
Anne
viens de voir des
Bisson.
ballons. J'ai dit, c'est-tu pour me dire que ça achève l'émission puis il faut que j'arrête de parler? Donc, je ne sais pas. Je me
Moi,
suis à côté sur
j'ai
mon
pas
Mac.
de ballon de mon bord.
OK, ça marche. Mais là, je me disais, je suis fatiguée, rare, j'étais encore sur du jet lag, ça doit être ça. Non, mais les personnalités, là, il faut être capable de les amener. Chacun a leur défi. Moi, je disais toujours à mes enfants, le défaut, ça n'existe pas. Vous avez des défis. Ça aussi, c'est un mot que je faisais toujours attention. Moi, mon fils, il manque parfois de flexibilité. Ça, j'en parle souvent dans mes conférences. La flexibilité, c'est quoi? Ben, c'est d'être capable de changer de plan, justement. C'est d'être capable de dire, tu sais, quand il était petit, il avait 2 ans, puis je disais, faut que j'arrête chez Métro. Ah, j'ai plus de lait. La crise qu'il me faisait dans l'auto, non, on va pas chez Métro. On s'en va à la maison parce que c'était là qu'on était censé aller. Il voulait, ah non, des grosses crises, là. Là, je me disais, il doit être Asperger. Tu sais, il doit avoir un problème de personnalité, quelque chose. Samuel est très doué. Il a une douance, disons, peu importe. Donc, c'est un enfant qui est la logique est extrêmement coupante. Donc, il y a de la misère avec la flexibilité. Il y a de la misère avec l'injustice. Lui, c'est la justice. Il y a de la difficulté à tolérer aussi ceux qui sont peut-être pas comme les autres. Il comprend pas l'obésité, par exemple. À un moment donné, ben, là, aujourd'hui, oui, là, il y a 28 ans. Il était plus jeune, il me disait, ben voyons, maman. Ils ont juste à moins manger, là. Comment ça se fait, là, qu'ils sont gros? Ben, je disais, Samuel, c'est pas, on choisit pas, là, c'est une maladie. J'essaie d'expliquer, mais lui, c'est logique. C'est logique, si tu manges beaucoup. Tu vois, t'sais? Mais donc, puis Éléonore, elle est dans l'empathie. Elle, c'est carrément le contraire. Elle veut aider les autres, puis elle va avoir d'autres défis, sûrement. Mais tu sais, puis c'est comme ça dans la société. Quand je donne des conférences, je dis souvent, c'est le fun, il y a des pommes, des poires, des oranges ici. On n'est pas toutes pareilles. Puis imaginez, c'était toutes des petits springs comme moi. Vraiment, c'est fatigant, tu sais. Mon chum, moi, il est très low-key, il est très calme. Il mesure 6 pieds 3, il marche pas vite. Il est parfaitement matché avec moi. Aujourd'hui, il travaille avec moi parce qu'il est dans le même domaine, mais c'est lui qui négocie mes contrats. Ah, merci, ça fait du bien. Mais tu sais, on est vraiment différents, mais c'est correct
Ben
aussi. Fait que je
oui.
pense qu'il faut que les gens, tu sais, avec la société de performance dans laquelle on vit, là, on veut être le voisin gonflable. Tu sais, on veut la plus grosse auto, on veut la piscine creusée, on veut ci, on veut ça. Mais ce n'est pas nécessairement ce qui va nous amener au bonheur. Puis moi, j'ai connu des années de précarité. C'est normal, comme artiste, là, ça monte, ça redescend.
Oui.
Quand coup de foudre a arrêté, j'ai perdu deux shows, je pense. J'ai fait du téléachat aussi, oui, en passant. Hey,
Ça,
ça arrête tout le temps.
c'était votre voix à téléachat,
Oui, mais c'était ma face aussi. J'étais avec Jacques Salvaille. On vendait des chaudrons, des couteaux, des. J'ai parlé 6 minutes sur un rouge à lèvres. C'est pour ça que je vous dis que je suis capable de faire
hein?
la cabane à sucre, comme on disait. Étire, étire. Tu sais, le réalisateur me disait, Anne, encore 2 minutes.
Ouais.
OK. Fait que, mais j'ai appris mon métier là, de toute façon. Mais tout ça pour dire que la. C'est ça, c'est pas évident, là, tu sais,
Non.
faut composer avec tout ça, mais en bout de ligne, l'important, c'est de savoir ce qui nous rend heureux.
Ouais.
C'est ça qui est, tu sais, les valeurs qu'on transmet. Moi, j'aime mes enfants, vous avez l'air des amis, vous aussi, ben, c'est ça qui est le plus important. En bout de ligne,
Exactement.
c'est ma vie.
Je rappelle aux auditeurs que ce soir, on a le plaisir d'être avec Anne Bisson. Elle est animatrice, elle est conférencière, elle est chanteuse aussi, chanteuse de jazz. Elle fait de la musique. On aura l'occasion d'en reparler tout de suite après la pause. Restez là.
Voyage Aquaterra Lévis, Québec.
Marceau, le soir. La meilleure façon de commencer sa soirée. Marceau, le soir. Le soir. Le soir.
Anne Bisson est notre invitée de ce soir et j'imagine que ça sonne nostalgique pour vous, Anne Bisson, puisque dans les années 80, c'était une superstar. En fait, dans mes yeux à moi, c'était une superstar puisqu'elle était à la télé. Je vous ai connu à Coup de foudre, on en a parlé dans le début de l'émission. Vous animiez l'émission Coup de foudre avec Yves Gionnet. Par la suite, il y a eu Vosimolo, La Marmaille, vous avez fait aussi Starmania. Vous avez fait énormément de shows avec Starmania. Combien d'années avec Starmania?
Bien, Starmania, on a fait un an et demi. On a fait une tournée, mais seulement au Québec. On a fait la Place des Arts, on a fait toutes les salles
Ça devait être
du
une belle
Québec.
expérience, ça.
Oui, c'était le fun. Moi, j'étais roommate avec Marie-Denise Pelletier.
Oui.
Puis nous autres, on était pas mal tranquilles. pas toujours, parce qu'à un moment donné, je me souviens que là, il y avait Jean Leloup. Vous savez, ça, personne ne s'en souvient non plus. Marie-Carmen, tout ça, puis. Maintenant, on était à Chicoutimi, puis là, le producteur, écoute, on n'avait plus de voix, personne. On était ben trop sur le party. Le producteur, il nous a mis un couvre-feu.
Ah oui!
Parce que là, on n'était plus capable de chanter, il fallait mettre des bandes. Tu sais, là, ça n'allait pas bien. Mais non, ça a été une belle expérience. On a disqué, on a fait un album avec Audiogramme. Moi, je faisais Cristal, comme je vous disais, fait que j'avais Monopolis. C'était la troisième version. La première version, c'était France Gall qui faisait Cristal. La deuxième, c'était la belle Martine Saint-Clair. Puis la troisième, c'était ma version avec. Puis après, ça a continué. C'est drôle parce qu'il y a un an et demi, j'étais en Floride et puis à l'hôtel, un super bel hôtel. Et qui est assis à côté de moi? Luc Plamondon,
Oh boy.
avec son chum Marc. Puis là, je fais, Là, je me lève parce que j'entends parler en français derrière moi. Puis je disais à mon conjoint, je dis, mais c'est la voix de Luc. C'est sûr que c'est Luc Plamondon, je reconnais sa voix. Mais là, ça fait 30 ans qu'on ne s'est pas vu. Je me lève pour aller comme aux toilettes. Puis là, je me retourne. Puis je dis, allô, Luc. Puis là, du coup, il savait, oh, Anne. Fait que, oui, j'étais contente de le voir parce que ça a été une belle expérience. Pour moi, ça aurait pu déboucher. Puis mon album en français aurait pu marcher. Mais la vie me réservait une carrière complètement différente ailleurs.
Oui,
C'est
puis vous pouvez en
ça.
être fier de votre belle carrière qui dure déjà depuis plusieurs années. En conférence avec la belle gang d'Horizon, vous offrez la conférence L'ADN du bonheur, c'est ça?
Oui, l'ADN du bonheur, l'ADN d'une vie équilibrée. J'ai plusieurs volets à ma conférence, c'est-à-dire que j'aime travailler avec le client. Par exemple, j'en ai fait pour les caisses populaires Desjardins il y a une quinzaine d'années, puis c'était sur le volet santé. Fait que là, on mettait plus l'emphase sur prendre soin de nous, des trucs pour compartimenter au travail. Moi, j'ai la boîte du moi, la boîte du travail, la boîte de la famille. J'ai trois boîtes que j'apporte puis ils sont gigognes. C'est-à-dire que la première, là, c'est une grosse boîte, c'est écrit travail. Je dis, hey, on a-tu des affaires à faire? Là, j'ouvre la valise. Ah, famille. Bon, ça, c'est toutes les choses qu'on a à faire. Puis là, j'ouvre la boîte de la famille. Puis une toute petite boîte, c'est écrit moi. Là, je l'ouvre, puis je dis, celle-là est tout le temps vide. Comment ça se fait? Fait que donc, je m'adresse à des employés, ça peut être des banques, j'ai fait la TD, j'ai fait Mackenzie Investments à Washington, j'ai fait l'Association des psychiatres du Canada. Ça, j'étais impressionnée parce que je suis pas psychiatre, j'ai pas de PhD, puis là, je suis devant 500 personnes, je fais ça en anglais.
Qu'est-ce que je vais leur apprendre?
Qu'est-ce que je vais leur apprendre? Oui, bien, figurez-vous qu'à la fin de la conférence, il y a un psy qui est venu me voir, un psychiatre, puis il dit, écoutez, il dit, j'ai quelque chose à vous demander. J'ai dit, moi, j'ai un patient qui a vraiment beaucoup de difficultés à prendre soin de soi. Il est pas capable. Qu'est-ce qu'il pourrait faire? Puis là, ben, j'ai dit, écoutez, j'ai dit, moi, je pense qu'il faut commencer par des toutes petites choses. Parce que des fois, on voit ça très grand. Tu sais, il faut que je prenne soin de moi, là. Fait que 5 fois par semaine, je vais aller au gym ou 5 fois par semaine, je vais faire ta. Non. J'ai dit, ça peut être 10 minutes ou 15 minutes dans une journée. Puis là, je donne l'exemple de ma mère, qui n'a pas de PhD puis qui n'a pas d'études, mais qui me disait, elle avait 4 enfants, par exemple, comme dit Yvon Deschamps, elle ne travaillait pas, elle avait trop d'ouvrages. Tu sais, elle prenait un thé l'après-midi, entre 3 h et 3 h 15, elle se faisait un thé, puis elle s'assoyait, puis elle dégustait son thé. Bien, ça, c'est prendre soin de soi. C'est pas long. C'est pas nécessairement s'embarquer dans quelque chose de
C'est pas
compliqué. Et
partir à
plus on.
Cancun, c'est pas partir à Cancun tout
Non.
seul pendant 16 jours pour prendre soin de soi. C'est un petit 15 minutes, mais c'est un 15 minutes qui en vaut la peine.
Oui, puis c'est comme se brosser les dents. Je dis souvent, puis c'est la même chose pour pratiquer son piano. Tu ne fais pas 7 heures de piano d'une journée, puis après, tu ne pratiques pas de la semaine. C'est un petit peu par jour, comme se brosser les dents. Tu ne brosseras pas les dents 3 heures de temps le dimanche pour dire, ben là, je suis bon pour le reste de la semaine. Donc, c'est tous les jours qu'il faut prendre soin de soi, mais par petite dose, puis il faut, et là, ça, c'est la difficulté. Il faut demander aux gens, c'est quoi qui est important pour vous? Moi, souvent, dans mes conférences, je dis à une dame, l'autre fois, j'ai. Vous, madame, là, c'est quoi qui est important pour vous? Là, la femme, elle me répond, oh, moi, c'est quand mes enfants sont heureux, c'est quand mon mari est de bonne humeur, c'est quand mon voisin pète mon entrée. Mais là, je dis, voyons, ça n'a pas de bon sens. Vous n'êtes même pas là. Vous ne faites même pas partie de l'équation. Alors, comment voulez-vous avoir de la reconnaissance des autres si vous ne vous appréciez pas assez vous-même pour prendre soin de vous?
Il y a des petits éléments de la vie comme ça qui nous est mentionné. Des fois, on dit, comment ça, il nous explique ça? Quand on donne des règles dans l'avion, on vous dit, si jamais on a un
Oui, ben
amerrissage,
exactement le masque.
vous mettez votre masque en premier et après ça, vous aidez les autres personnes autour de vous. Si jamais vous êtes en bateau dans une croisière, vous mettez votre ceinture de sécurité en premier et par la suite, vous allez aider les autres personnes. Ben, dans la vie, on n'a pas tendance à faire ça. On a tendance à, même si on est dans la tristesse, on a tendance à vouloir aider des gens qu'on considère qui sont tristes aussi, mais toi aussi, tu l'es, tu sais. Arrange-toi
Puis
pour
ça,
être toi de bonne humeur, puis après ça, tu vas pouvoir aller aider les autres, tu sais.
Mais c'est vraiment ça, vous avez soulevé le point. C'est que souvent, puis savez-vous pourquoi on ne le fait pas? À cause de l'éducation, la culpabilité. Là, je parle des 4 facteurs qui mènent à la culpabilité. Oui, le judéo-chrétien, la religion, OK, même si on ne va plus à l'église, là, on va se le dire, c'est dans notre mémoire
Ouais.
cellulaire, tout le judéo-chrétien. Ma mère, elle prenait pas de break, ben moi non plus. Ta grand-mère, elle prenait pas de break, ben toi non plus, tu n'en mérites pas de break. C'est dans notre ADN. L'éducation, la conscience sociale, puis l'ADN aussi, tu sais, ah, veut, veut pas. Alors, est-ce qu'on peut changer son ADN? Parce que je demande souvent aux gens, pensez-vous qu'on peut changer son ADN? Là, tout le monde dit, mais non. Je dis, oui. On peut changer son ADN chaque fois qu'on fait quelque chose de différent que notre grand-mère faisait pas. On change notre ADN, puis c'est facile à comprendre. Sinon, on sera encore à l'ère du Néandertal à cueillir des petits fruits. Donc, on a changé notre façon de vivre et ça nous a amenés ailleurs. Alors, c'est ça. Ça parle finalement. Ça passe assez vite. Ça dure 1 heure, ma conférence. Mais puis il y a de la musique, évidemment,
Ben
là-dedans.
oui, ben oui. Donc, pour la
Moi, je
conférence,
commence en musique.
pour la conférence, on peut vous retrouver chez horizon.ca. Et sinon, pour en savoir plus sur Anne Bisson, la chanteuse de jazz, pour avoir accès à ses albums et tout ça, c'est annebisson.com.
.com, c'est super facile. Et sur mon site, il y a les deux volets. C'est ça qui est le fun. Alors, on arrive sur le site. À gauche, on a la conférence. Puis à droite, on a la chanteuse. Et c'est bilingue. Il est en anglais et en français, évidemment. Et la boutique est là. Les critiques sont là. Les spectacles aussi. Je mets toujours mon calendrier de spectacle, de tournée. Là, je suis contente parce que ouf, j'ai 3 mois sans prendre l'avion, puis je vais me reposer au Québec. Je vais profiter du beau temps qu'on a ici pour jardiner, parce que ça me fait du bien, ça, à la tête, jardiner, m'occuper des fleurs, voir mes amis, mes enfants et tout ça. Puis après, ça repart, j'écris, j'ai un show à Seattle, c'est ça, Milan probablement au mois d'octobre, ensuite Washington, Toronto, puis je finis à Mexico, Mexico City au mois de décembre.
Madame Bisson,
Fait
Anne, ça a été un plaisir de vous jaser ce soir. Merci de vous être prêtée à
Merci.
l'exercice. C'est très apprécié. Moi, la dame que j'ai connue qui était à la télé quand j'étais ado, ben, elle avait une super de belle énergie. Cette belle énergie-là, vous ne l'avez jamais perdue. Elle est encore là.
Oh,
Je la
c'est gentil.
redécouvre ce soir. Ça a été un plaisir de vous rencontrer. Vous êtes extrêmement intéressante.
Ben, merci beaucoup de l'invitation, puis j'espère qu'on se reverra à un moment donné dans un show ici au Québec.
Oui, puis si vous êtes de passage à Québec, venez dans les studios de Leclerc Communication, ça va nous faire un plaisir. Vous n'avez même pas besoin d'invitation. Dites, cognez à la
D'accord.
porte, dites, Yann, il m'a dit de rentrer, fait que on rentre, puis on placotera comme ça, c'est aussi facile que ça. Donc, je vous souhaite de passer une belle soirée.
Marceau, le soir. Le vendredi 24.